France Culture.
Les nuits de France Culture.
En 2007, Pascal Casanova consacrait un numéro des Mardis littéraires à Gérard de Nerval. En compagnie de l'enseignante et romancière Tiphaine Samoyot, elle accueillait les auteurs de différentes publications à propos de Nerval pour une conversation où se croisaient leurs perceptions et leurs analyses respectives de l'œuvre et de la vie de l'auteur des Filles du Feu. Pourquoi Nerval pouvait-il être considéré comme le plus grand des romantiques français ? Comment fallait-il comprendre le « Je suis l'autre » de Nerval, dont Gérard Massé avait fait le titre de l'ouvrage qu'il publiait alors ? En quoi Nerval a-t-il lui-même contribué à forger la légende dans laquelle on l'a trop souvent tenu enfermé ? Dans son « Contre Sainte-Beuve », que voulait dire Proust en avançant qu'il y avait encore un peu trop d'intelligence dans Sylvie ? C'était là quelques-unes des interrogations qu'abordait l'émission que nous allons entendre, où l'on s'interrogeait également sur le sens à donner à la multiplication des parutions autour de Nerval depuis le début du XXIe siècle. Les Mardis littéraires, Gérard de Nerval, première diffusion le 12 juin 2007 sur France Culture.
Les Mardis littéraires avec ce matin Gérard Massé qui publie conjointement Je suis l'autre aux éditions Gallimard dans la collection Le Promeneur et Filles de la mémoire. Aux mêmes éditions Gallimard dans la collection Blanche, Jacques Demarque qui est poète et traducteur et qui publie un article dans le récent numéro de la revue Europe consacré à Gérard de Nerval. Françoise Alexandre qui est enseignante et qui publie Les dernières lettres de Nerval à son père et au docteur Blanche 1853-1855 aux éditions L'Insulaire. Fatih Adamani qui est enseignante et écrivain qui publie une pièce de théâtre, Nerval ou le rêve et la vie aux éditions de l'Amandier, et Tiphaine Samoyot qui est enseignante, écrivain et critique avec qui on va parler de tous ces livres. Extrait de l'Adagio du concerto numéro 2 de Franz Liszt qu'on entend dans votre pièce de théâtre, Fatih Adamani. Donc voilà, c'était pour commencer cette émission sur Nerval. On va commencer avec vous, Gérard Massé, Je suis l'autre, qui est donc un recueil de textes et notamment de préfaces que vous avez écrites pour différentes rééditions des principaux textes de Gérard de Nerval. On va s'arrêter d'abord et sur votre titre, Je suis l'autre, et sur la photo de couverture dont vous expliquiez juste avant que les micros ne s'ouvrent que c'est une découverte relativement récente.
Enfin, le daguerréotype, il est d'époque, évidemment. C'est pas une photo posthume de Nerval.
Découverte.
Mais c'est une reproduction répandue depuis relativement peu de temps. Je dis reproduction et c'est vraiment une reproduction parce que à l'origine c'est un daguerréotype. Et maintenant tout le monde sait à peu près à quoi ressemble un daguerréotype, c'est-à-dire que c'est une plaque d'argent. Donc il y a un effet de miroir dans le daguerréotype. Et je me souviens de la première fois où j'ai vu l'original de cette photographie, c'était lors d'une exposition à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, qui était consacrée à Nerval, je ne sais plus en quelle année, mais il y a quoi, 10, 12 ans, 15 ans, il faut toujours ajouter un peu de temps à celui qu'on estime avoir passé. Devant ce daguerréotype, j'avais l'impression d'être devant un miroir qui aurait conservé le visage de Nerval. Et un visage qui apparaît, qui disparaît, qui vient et s'en va, puisque quand on bouge devant le daguerréotype, l'image est changeante, elle est comme mal fixée. Et il y a quelque chose, évidemment, on s'en aperçoit tout de suite, de profondément nervalien dans cette sensation-là, dans cette impression. Donc j'ai toujours gardé en mémoire. Et je crois que la première publication de ce daguerréotype, c'est dans l'album Nerval de la Pléiade. Si je ne me trompe pas.
Donc on sait qu'il a été pris en 1853 ou 1854, c'est-à-dire les années qu'il passe, les dernières années qu'il passe à la clinique de Passy chez le docteur Blanche.
C'est ça, et on connaissait surtout avant le daguerréotype lui-même une gravure qui avait été faite d'après cette image, une gravure sur laquelle Nerval avait écrit de sa main « Je suis l'autre ». Et c'est cette formule que j'ai relevée pour en faire un titre, que j'ai relevée parce que d'abord elle est troublante, elle est de lui, et d'autre part elle est comme, enfin j'allais dire l'écho, mais chronologiquement c'est l'inverse, elle est évidemment à mettre en parallèle avec la formule beaucoup plus fameuse qui est celle de Rimbaud, « Je est un autre ». Plus fameuse parce que Rimbaud peut-être a... est plus répandu dans sa légende, dans ses formules. Il y a nombre de citations de Rimbaud qui sont devenues comme ça, comme des santons, si vous voulez. Bon. Et puis aussi parce que cette formule est grammaticalement bizarre. Voilà, ce « je est un autre ». Je crois que la célébrité de la formule vient aussi de là. Mais celle de Nerval, qui est au fond plus banale, « je suis l'autre », si on l'écoute, si on se met à l'entendre vraiment pour ce qu'elle veut dire, et si on pense à ce qu'a écrit Nerval et à ce qu'il a vécu, les deux à la fois, on se dit qu'il y a là quelque chose qui est proprement vertigineux. C'est-à-dire qu'il y a comme l'impossibilité pour Nerval d'une mise à distance par rapport simplement à ses lectures, à des êtres de fiction et comme aux êtres réels. C'est-à-dire que ce soit Marie Pleyel, Jenny Colon ou Sylvie, Adrienne, enfin surtout des femmes, mais aussi des personnages de théâtre, hein, l'illustre Brisacier dont il parle dans Les Filles du Feu par exemple, ou des personnages qui viennent du roman comique de Scarron, qui sont donc à la fois des comédiens et des êtres romanesques, il y a chez Nerval l'impossibilité de les envisager à distance de lui-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a plus qu'une projection, il y a une sorte de fusion. En même temps, il y a quelque chose de totalement merveilleux dans cette attitude, que je comprends pour ma part fort bien. C'est-à-dire que c'est une espèce d'hyperlecteur, Nerval. Il est à l'intérieur complètement de ce qu'il lit. D'une certaine manière, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire en écrivant sur lui aussi.
Mais cette formule, si j'ai bien compris, elle est... écrite de la main de Nerval sur l'exemplaire d'un livre qui venait de sortir, qui était un portrait de lui qui cherchait à le réhabiliter, mais il n'était pas très très content de ce livre. Il voulait prendre ses distances à l'égard de ce portrait. Et on peut comprendre cette formule « je suis l'autre » comme « je ne suis pas celui-là ». Ce n'est pas celui « je suis un autre oui. ». Je ne suis pas réductible à ce portrait pas formidable qu'on vient de faire de moi.
Vous avez raison de le dire, il y a une sorte de défense. Qui d'ailleurs n'est pas la seule. Peut-être il faut rappeler, parce que l'éditeur n'est pas obligé de le savoir, que Nerval s'est défendu comme un beau diable, si j'ose dire, contre les affirmations de Jules Janin, contenues dans une nécrologie avant l'heure, ou contre Alexandre Dumas, qui avait fait un article aussi qui contenait un portrait de Nerval.
Toute sa vie, au fond, il a eu à lutter contre des gens qui disaient c'est un fou gentil, mais quand même il est très très fou. Personne ne voudrait donner sa fille en mariage à ce type fou furieux. Il a eu à se battre quand même contre des gens, soi-disant ses amis, qui étaient extrêmement mal intentionnés.
Enfin, pas forcément mal intentionnés, parce qu'il y avait... enfin, tout de même, il y avait une reconnaissance aussi du génie de Nerval dans sa bizarrerie même.
D'accord.
Simplement, Nerval en a souffert, je crois, pour deux raisons. D'une part, parce qu'il a toujours eu beaucoup de mal à s'inscrire socialement dans une position, un rôle ou un métier, tout simplement, qui lui permette d'être à peu près honorable. Or, n'exagérons pas avec l'aura de la malédiction. Ça, c'est pour nous. Mais pour lui, il n'y avait aucune aura là-dedans. Il y avait simplement un malheur.
Voilà, bon. Voilà.
Et comme vous le disiez, en effet, je pourrais pas me marier, par exemple. C'est lui qui le dit.
Oui, c'est très, très pathétique. Il
Absolument.
Écrit ça à Jeannin en disant, voilà, tu me tues, au fond, tu me tues socialement,
voilà,
je ne pourrais pas me marier.
Oui.
Ouais.
Je ne pourrais jamais me présenter nulle part, jamais me marier, jamais me faire écouter sérieusement.
Oui.
Réparer le mal en reprenant les éloges ou constater bien votre erreur. Donc c'est une lettre qu'il écrit à Jules Jeannin après cet article nécrologique qui, vous avez raison, Gérard Massé, contribuait aussi à constituer une légende, mais était vécu par lui de façon très douloureuse. Et je dirais que par rapport à la formule, je trouve que vous en donnez... Bon, elle a été quand même souvent reprise, même si c'est vrai, elle est moins célèbre que Le jeu est un autre. Et vous en donnez dans ce livre, je trouve, un très beau développement en le rattachant justement à ce portrait miroir. Il me semble que la formule serait banale si elle était « je suis un autre ».
Oui.
Mais que là, l'article définit crée un trouble.
Et il est à chaque fois un autre différent. C'est ça qu'il faut ajouter. Et dans la mythologie nervalienne, il y a la même chose, par exemple. L'impossibilité d'être un bon fidèle ou un dévot, il le dit ça aussi, il l'affirme. Tout simplement parce qu'il change... Il change de Dieu aussi sans arrêt, vous voyez. C'est-à-dire qu'il se projette dans le paganisme, aussi bien que dans certains aspects du christianisme, dans des cultes orientaux. C'est-à-dire qu'il y a l'impossibilité pour lui, et ce qui est une forme de liberté aussi, de s'accrocher à quelque chose de bien défini. Alors à propos de la folie, je voulais juste ajouter un aspect, enfin dans la protestation de Nerval, il proteste aussi parce que, à l'époque, la folie est honteuse, tout simplement. D'abord, on ne sait pas la guérir, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait que où se moquer ou enfermer.
Ça a peu changé.
Ça n'a pas toujours... Vous dites ça a peu changé, c'est ça?
Ça a peu changé,
oui,
je dis.
Oui, oui, en effet. Simplement, il y a tout de même des formes d'aide qui n'existaient pas. Enfin, il y a des...
Bon. La folie, c'est l'exclusion.
Oui,
c'est complètement l'exclusion. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est un statut facile d'être connu comme fou. D'abord, on ne dit plus vraiment fou, mais à l'époque, c'est l'exclusion. Dans la formule « je suis l'autre », l'article défini fait qu'on est l'autre de quelque chose. De quoi Nerval est l'autre? Je n'ai pas la réponse, mais on peut suggérer des questions. Je pense qu'il est l'autre, justement, de la littérature de son époque, du monde littéraire de son époque, représenté par Jeannin et Dumas, mais pas seulement Dumas, je dirais par Sainte-Beuve, par cette idée l'homme et l'œuvre, et que Sainte-Beuve va chercher l'œuvre dans ce qu'on sait de l'homme et tout ça. Alors évidemment, la question de la biographie et de l'œuvre chez Nerval est une question complexe, mais il se situe pas sur le même plan. Et ça, il faut attendre Proust, parce que les choses évoluent, pour que Proust, d'abord, reconnaisse la grandeur de l'écriture et de l'œuvre de Nerval, et qu'il le fait contre Sainte-Beuve, justement. C'est dans un livre qui s'appelle « Contre Sainte-Beuve » et qui est une première esquisse de La recherche du temps perdu. Ça contient aussi des souvenirs. C'est un livre étrange, passionnant. Et cet autre de la littérature, au fond, Nerval, pour aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, c'est le plus grand romantique français. Il a été très longtemps un mineur. Et c'est peut-être le seul romantique français... qui est du côté de l'un des versants du romantisme, du romantisme allemand.
Est-ce qu'on dit pas romantique justement du fait de son intérêt pour les romantiques allemands, de ses traductions, etc., plus que la réalité de l'œuvre?
Il a beaucoup d'aspects qui sont des aspects romantiques. Il s'intéresse à la littérature populaire. Il est très intéressé par le fantastique. Il y a cet intérêt pour le rêve, l'onirisme et aussi le paganisme. Ça n'a pas forcément de rapport, et ça peut en avoir. C'est toujours quelque chose et son autre chez Nerval. Mais Tout ça, ce sont des aspects, et j'en oublie sûrement, des aspects de la littérature romantique, notamment allemande. Il invente des contes qui se situent dans le Valois. Je ne sais même plus comment s'appelle la Reine des Poissons, c'est pas ça ?
Oui.
La Reine des Poissons, c'est évidemment imité de l'allemand. C'est pas du tout un conte du Valois. Il y a plein de... Non seulement je pense qu'il est romantique. Enfin, il y a des aspects qui sont communs avec Hugo, avec notamment Hugo, qui est un monstre d'écriture. Mais je crois qu'il y a ça aujourd'hui. Nerval est quand même un grand écrivain romantique.
Françoise Alexandre, on va revenir bien sûr sur l'Allemagne qui est très très importante. Juste pour finir sur cette question, si c'est possible, je relevais dans la revue Europe un article vraiment intéressant de Michel Jeanneret sur la question de la biographie pour ce qui concerne Nerval, et qui dit au fond qu'il y a eu tout un corpus qui s'est constitué, une sorte de légende. Il reprend bien sûr le thème de biographème de Barthes pour dire qu'il y a une sorte de légende nervalienne qui s'est constituée peu à peu. Il donne un nombre incroyable de livres qui sont sortis au moment et après sa mort pour raconter les anecdotes de sa vie, et qui, au fond, ont empêché de le lire et de le prendre pour un écrivain, donc de le mettre dans une sorte de catégorie, par exemple, écrivain fou, qui ont constitué la postérité très, très étrange de Nerval.
Mais Michel Jeanneret constate aussi que ça n'est pas que Nerval ne constitue pas un cas particulier, que bien des écrivains ont été... porté ou soumis à la légende qui se constitue à travers l'écriture biographique et les réécritures biographiques successives qui souvent ne retiennent que des aspects spectaculaires et qui parfois travestissent la réalité. Nerval, dans les dernières lettres à son père et au docteur Blanche, s'insurge contre le traitement romanesque que la petite plaquette biographique de Jeanne de Mirecourt lui fait subir. Et exactement à la même époque, dans le début d'Histoire de ma vie, George Sand s'insurge elle-même contre ses biographes qui la traitent, dit-elle, en héroïne de roman. Mais l'article de Michel Jeanneret souligne bien que l'artiste Nerval contribue pour sa part à l'élaboration de cette légende. Ces écritures biographiques font partie de la représentation que nous avons de l'auteur. On ne peut pas les ignorer.
Non, mais en même temps, par exemple, du même coup, il dit que pendant très longtemps, et c'est peut-être en train de changer, beaucoup de ses textes, par exemple Aurélia, ont été pris pour des documents. C'est-à-dire qu'il suffisait de lire Aurélia pour comprendre la folie de Nerval, sans faire l'hypothèse que vous faites, vous, Gérard Massé, c'est-à-dire qu'il y a un art poétique, c'est quelqu'un de très sophistiqué littérairement, etc. Et voilà, et donc ça pose des problèmes très très compliqués.
Mais Aurélia, c'est l'un et l'autre, c'est tout à la fois. C'est-à-dire que sans l'expérience qu'a traversé Nerval, il n'y aurait pas eu Aurélia, mais sans l'écrivain qui était Nerval, nous n'aurions pas ce texte. C'est manifeste en particulier au début, dans la première page, où le modèle sous-jacent, c'est la Vita Nuova de Dante. Donc ça n'est pas seulement un document clinique, c'est aussi une élaboration littéraire.
Tiffaine.
Oui, il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est la passion avec laquelle notre époque travaille et de façon très très riche sur Nerval. Bon, il y a dans la préface au numéro d'Europe, donc consacré à Nerval, Anne Struve explique toutes les différentes réceptions qu'il a connues. Donc, on peut faire allusion à celle contemporaine qui le donne pour mort et fou avant même qu'il le soit. Mais je remarque que à notre époque, on est tout à fait, c'est une grande époque nervalienne. Ça dure peut-être depuis 15 ans. Il y a à la fois des très belles lectures comme celles que vous avez faites ou celles que fait Pierre Pachet, mais aussi des travaux universitaires importants, les travaux de Jean-Nicolas Illouz, de Bertrand Marshall, tous les articles extrêmement intéressant qui se trouve quand même dans ce numéro de la revue Europe. Et il me semble que on essaye de comprendre aussi pourquoi il y a cette passion de l'époque et cette réponse aussi assez belle qui est donnée, parce qu'il pourrait y avoir une passion de l'époque et puis que les textes paraissent inintéressants ou bon, ça arrive, mais là ça n'est pas le cas. Et j'y vois un petit peut-être deux raisons. Et la première, c'est celle-là, la question de l'identité, du trouble identitaire. On peut penser à des livres qui ne parlent pas spécialement de Nerval, mais qui sont sortis ces dernières années, qui dit jeu en nous, cette question de la dissociation ou de la multiplicité des identités à l'intérieur d'un même être. Et c'est pourquoi cette phrase aussi nous interroge énormément, hein. Je suis l'autre, qui est reprise d'ailleurs dans la pièce de Fatia Damani. L'autre explication que je verrais, c'est la question généalogique, hein. C'est le trouble généalogique dont témoigne cette œuvre, dont on parlera sans doute à l'occasion de la discussion sur les lettres à son père, mais comme si l'excès d'archives dans lequel nous étions plongés trouvait une sorte de correspondance dans la lacune d'archives qui était dont témoignait la vie de Nerval et que cherchait à compenser son œuvre dans le recours à la bibliothèque, etc. Donc ces deux troubles qui sont évidemment liés, le trouble identitaire, le trouble généalogique, mais qui me semblent correspondre à deux troubles très, très, très puissants de notre époque.
Oui, je pense que, l'intérêt et la nouveauté aussi des écrits d'aujourd'hui, c'est qu'on est sorti de la volonté de trouver une explication unique. Je pense à Jean Richet, à l'ésotérisme, à l'explication psychanalytique, ou je ne sais quoi d'autre. Voilà. On est sorti de ça. Et donc, ça laisse le champ très libre et les réponses sont passionnantes.
Fatia Damani.
Oui, ce que je voulais dire par rapport à la phrase je suis l'autre, c'est aussi qui explique pourquoi. Enfin, quant à moi, on ne se remet pas de la rencontre avec Nerval. Parce que je suis l'autre, c'est la singularité, c'est l'altérité. Et ce n'est pas simplement une thématique littéraire, celle du double, c'est-à-dire des multiples composantes de notre être, que Nerval a transcrit, traduit, puisqu'on l'appelait le commis-voyageur entre l'Allemagne et la France. Nerval, c'est un grand voyageur, c'est quelqu'un qui a traversé l'Europe et qui a fait la très grande expérience orientale, celle du 19e siècle. Nerval, c'est quelqu'un qui dans son être fragile, contient les trois grandes expériences du 19e siècle. Et je pense que c'est pour cette raison aussi qu'il résonne de façon puissante. L'expérience du romantisme, c'est-à-dire du rapport à soi-même, mais une expérience à lui-même très difficile parce que dans un classicisme français, dans un esprit rationaliste, alors que Nerval est ailleurs, il est toujours ailleurs et c'est pas pour rien que on peut le considérer comme un romantique allemand, c'est pas un romantique français. Et donc, il y a cette expérience de l'individualisme, du retour à soi-même, de l'intériorité. Il y a la grande expérience de l'orientalisme, l'autre, mais l'autre concret, parce qu'on sait que Nerval, quand il va en Orient, alors que c'est un homme d'une très grande érudition, qui a un rapport à l'imaginaire et au livre extraordinaire, c'est quelqu'un qui, quand il arrive en Égypte, ne va pas voir les monuments. C'est quelqu'un qui s'habille en arabe, qui se mêle aux arabes, qui questionne la question de la religion, de Dieu, qui est happé par toutes les formes d'imaginaire, qui interroge par sa nature et sa complexion psychologique particulière et entre guillemets pathologique, c'est quelqu'un qui est poreux. Je suis l'autre, donc il est l'arabe, il est l'allemand, il est l'européen. Et donc il y a l'expérience du romantisme, de l'orientalisme et de l'aliénisme. C'est-à-dire cette grande expérience qui va se constituer comme rapport à la folie. Parce que, donc effectivement, il y a quand même une modification au 19e siècle, parce que les travaux d'Espinel et de Pinel, pardon, et d'Esquirol, et le fait qu'à un moment donné, la libération des fous, même si elle relève, elle a été un petit peu mythifiée, mais la libération des fous implique qu'il y a un autre rapport à la folie, c'est-à-dire que la folie n'annule pas la raison. Et c'est à partir d'un dialogue possible avec le fou qu'il y a la possibilité de la clinique du docteur Blanche, qu'il y a la possibilité d'Aurélia, et parler, alors toute la singularité de Nerval aussi, je suis l'autre, c'est qu'il parle à partir d'une position extrêmement subtile, même si très très douloureux, c'est-à-dire la folie entre guillemets.
Vous avez des choses intéressantes là-dessus aussi, j'ai ramassé. Vous dites voilà ce que ses copains Jeannet et Dumas ne comprenaient pas, c'est que une partie de son œuvre est basée sur une espèce de dialogue avec lui-même et une façon de réfléchir sur sa propre folie.
L'extraordinaire, c'est la lucidité qu'il revendique et qui est presque toujours là en effet, sauf à de rares moments, même dans un après-coup, mais un après-coup presque immédiat. Et lucidité dont parle Baudelaire à son propos. Baudelaire affirme avec un peu de provocation
à propos de Nerval.
Baudelaire parle de la lucidité de Nerval et il souligne le mot. Je voudrais revenir au voyage en Orient, dont je n'ai pas parlé de mon livre parce que c'est l'économie du livre qui est impliquée, que je passe ça sous silence. Mais je suis un grand lecteur du voyage en Orient et je voulais remarquer à ce propos que il va toujours mieux en voyage.
C'est quoi la publication du voyage en Orient?
Alors là, oui, parce que il y a le feuilleton.
Pour faire d'abord le feuilleton dans les journaux. Donc il est d'abord passé sous forme d'article.
Oui.
Et puis après, ça a été réuni deux ans plus tard, je crois.
Les années 40, quoi.
Les années 40, d'accord.
disons ça comme ça.
D'accord.
Oui, il va toujours mieux en voyage, parce que tout à coup, il y a une objectivation de l'autre. Enfin, c'est mon hypothèse. Mmh. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un autre fantasmatique et un autre qui est en partie soi-même, tout à coup, il y a une rencontre réelle.
Comme dans la folie.
Et tout de même, le réel lui fait du bien. Et l'ambulation. Voilà. C'est-à-dire que Gautier parle à son propos de littérature ambulante, c'est un terme que j'aime beaucoup, et je crois que chez Nerval, ça a toute sa force.
Je voudrais juste rajouter qu'il y a quand même aussi le fait qu'en Orient, en Égypte, la folie n'est pas du tout considérée de la même façon qu'en France. C'est-à-dire que le fou, le medjnoun, comme on l'appelle, c'est quelqu'un qui est un sage, qui relève plus du philosophe que de celui qu'on enferme et qu'on brutalise, que l'Orient, pour Nerval aussi, et il le dit, là-bas, on ne me croyait pas fou. Comme en Allemagne, il répétera la même phrase pour l'Orient et l'Allemagne, c'est-à-dire que la raison, la place de la raison, ou en tout cas la place du trouble et de l'originalité, n'a pas du tout le même statut. Ce qui fait que Nerval peut exprimer quelque chose de lui-même qui est stigmatisé en France, mais qu'il ne l'est pas de la même manière.
Quand il arrive, en plus, on ne le connaît pas encore.
Tout à fait.
Donc tout se rejoue, d'une certaine façon. Mais il me semble qu'à propos de cette altérité, il faudrait en venir à la poétique de Nerval.
Allez-y.
Parce que on finirait par oublier qu'il y a des textes et de grands textes. Et Nerval n'est jamais davantage lui-même que lorsqu'il emprunte, lorsqu'il imite, il trouve sa voix à l'intérieur des autres. Ça va des chansons populaires du Valois et les réinvente toujours, comme vous le disiez tout à l'heure, ou du moins en partie. Quand il traduit Heine, c'est la même chose. Quand il traduit les diverses poésies allemandes, est-ce qu'il traduit, même le mot n'a pas le sens qu'on pourrait lui attribuer aujourd'hui. En tout cas, c'est pas du tout une traduction rigoureuse. Et parfois, même on se demande s'il y a un modèle préexistant.
Donc on peut rappeler qu'il, tout jeune, il traduit le premier Faust de Goethe. Et il a une petite gloire.
Oui, alors, une grande gloire dans un milieu restreint.
D'accord, c'est pas tout à fait pareil.
Oui,
vous avez une jolie formule, il me semble, dans vos textes. Vous dites, il ne connaît pas l'allemand, mais il le devine.
Oui, mais je crois que... je crois que c'est
quand même un traducteur très très paradoxal.
Très particulier, mais alors d'abord on n'avait pas l'idée au 19e de la traduction qu'on a aujourd'hui avec la rigueur philologique qui est la nôtre quand même le plus du temps.
Plus que ça quand même.
Non,
il y a eu certains traducteurs au fait de l'allemand.
Mais je veux dire qu'on traduit Dante au 19e, regardez par exemple les traductions de Dante, c'est de l'adaptation autant que de la traduction, vous voyez. On admet très bien ça.
Proust ne connaissait pas très très bien l'anglais quand il traduit Ruskin.
Oui.
Baudelaire ne connaissait pas.
Non, pas.
Une très mauvaise note.
Bien sûr. Bien sûr.
C'est un merveilleux traducteur.
Mais la fidélité ne procède pas toujours d'une méconnaissance de la langue. C'est que je veux
non,
dire. Ça,
non, voilà. Non. Mais alors, il y a de nombreuses erreurs dans le Faust de Nerval. Il est très jeune. En effet, ça lui donne une espèce de gloire immédiate dans le milieu littéraire parisien, c'est-à-dire dans le milieu romantique. Il va corriger d'ailleurs, parce qu'il y a une deuxième, puis il y a une troisième édition du Faust, et petit à petit, il améliore. Mais au fond, l'essentiel n'est pas là, c'est qu'il écrit par procuration. Et je me demande s'il n'y a pas une espèce de jouissance très particulière, que d'ailleurs les traducteurs en général connaissent bien, à écrire par procuration. Alors, le texte, il l'a tout de même choisi, c'est pas n'importe lequel. Et au fond, ça va le poursuivre. Et je dis à un certain moment que, j'y crois toujours, qu'il a réussi là, sa grande œuvre théâtrale, celle qu'il va chercher à écrire ensuite presque toute sa vie. Alors, il écrit pour le théâtre, parce qu'il est fasciné par les actrices, parce qu'il faut qu'il gagne sa vie.
Parce que c'est quand même la seule chose qui peut rapporter de l'argent.
Et à l'époque, et le succès. N'oublions d'accord. pas que d'accord. À l'époque, être joué au théâtre, c'est pour ça que tous les auteurs font du théâtre, c'est le moyen d'être absolument plus que connu, d'être admiré, loué. Vous voyez, enfin, il y a un succès public. Voilà, comme le cinéma aujourd'hui, d'une certaine façon. Bon. Donc, c'est quelque chose d'autre un peu que la littérature. Alors, Nerval a commis comme ça de nombreuses pièces sous son nom, écrites seul ou en collaboration avec des tas de gens, dont Dumas. Bon. Mais il y a, plus profondément que cela, chez Nerval, le besoin absolu d'écrire par procuration. Voilà. C'est pour ça que j'ai tenu dans les nouvelles éditions de poche Gallimard à ce qu'il y ait le volume que j'ai appelé Lénore et autres poésies allemandes, parce qu'il fallait lui donner un titre, Lénore et autres poésies allemandes, qui sont des poèmes d'auteurs extrêmement variés et qui parfois donc même n'existent pas.
Donc des recueils de supposées traductions qui supposées, en fait sont souvent inventées, coupées, remontées, voilà. etc.
Il y a tous les états et tous les degrés, si vous voulez. Il y a une palette là extrêmement nuancée. Parfois c'est une vraie traduction, une traduction qu'il reprend plusieurs fois au cours de sa vie. Lénore, on en connaît de multiples versions. C'est un texte dans lequel il se reconnaît, là encore, ou dans lequel il se reconnaît, mais dans le terme se reconnaître, il faut faire attention. Parce qu'il y aurait dans ce terme l'étroitesse, si vous voulez, d'une identification à laquelle on s'accroche. Or, c'est pas ça. Et c'est pourquoi il peut le traduire d'ailleurs plusieurs fois. Il y a une fiction dans Lénore. C'est un poème narratif. On a oublié la puissance, on a oublié au XXe siècle, enfin surtout dans la seconde moitié, la puissance de la poésie narrative, qui a les avantages du poème, sa concision, sa condensation, et d'autre part, la liberté de la fiction. Mmh. Évidemment, pour Nerval, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça le libère d'une certaine façon. C'est donc à la fois une reconnaissance et une liberté. Et il trouve ça dans toutes les poésies allemandes.
Jacques de Marc, vous êtes d'accord avec cette vision de l'Allemagne et de la traduction ?
De la procuration, il y a de ça, mais je dirais que Nerval, c'est aussi en général un écrivain qui écrit à partir de la littérature. C'est-à-dire que et qu'il rebondit sur des textes. Dans la fameuse lettre qui a été retrouvée récemment et qui se trouve à la fin du dernier tome de la Pléiade, le tome 3 de ses œuvres complètes, où il écrit à Victor Loubens parlant du moment d'écriture des chimères, de ces fameux poèmes de la folie, entre guillemets, de la folie. Il dit combien il y avait de lecture et d'imagination au milieu même de mes hallucinations. C'est-à-dire qu'il y a et parce qu'il avoue qu'avoir écrit Les Chimères en partie à un moment de crise, de folie, d'hallucination, donc, chose qu'on retrouvera dans Aurélien, mais il précise bien combien il y avait de lecture, c'est-à-dire que les Chimères, quelque part, c'est une synthèse, et c'est une synthèse à une espèce d'accélération du processus nervalien, c'est-à-dire que j'ai toujours vu Les Chimères comme l'écriture à toute vitesse, la vitesse du sonnet, c'est-à-dire, et puis ça. Et ça passe rapidement d'un thème à l'autre dans Les Chimères, cette espèce d'extraordinaire vitesse qu'il donne au sonnet, contrairement à un flot plus lent, dans, par exemple, Sylvie des Filles du Feu. Enfin, et c'est vraiment toujours, parce que dans Sylvie aussi, il y a beaucoup d'allusions littéraires, il y a beaucoup il y a pas seulement, on sait à quel point c'est une fiction, ce voyage qu'il situe, si on lit bien Sylvie, vers 1835, qu'il écrit en 1852 ou 53, je sais plus très bien, et où ça parle de sa jeunesse, donc cette fois vers 1810, 15, donc il y a une espèce de choses extrêmement compliquées, toute une structure fictive, mais en même temps beaucoup de littérature. Et c'est quelqu'un qui structure extrêmement ses textes. Il y a, parler d'écrivains qui écrivent à partir de la littérature, un peu comme Joyce écrit Ulysse à partir d'Homère, quand même. Il y a une structure au départ. Mm-hmm. Pour caser tout ce qu'on a à dire et qui est complexe, il faut trouver une façon de l'organiser.
Mais pour aller dans le sens de Fatia Damani tout à l'heure, vous faites une lecture de Sylvie justement à partir des deux autres pôles de Nerval que sont l'Allemagne et l'Orient. Et vous dites, on voit ça dans Sylvie.
Non, l'Allemagne et l'Italie.
D'accord, l'Allemagne et la Méditerranée.
Mais je parle aussi du personnage d'Adoniram qu'il invente dans Les Nuits du Ramazan et qui est un passage extraordinairement... et qui est fait à partir de quantités de lectures, notamment bibliques, mais pas seulement. Et il invente une fiction complète, une merveilleuse fiction du constructeur du temple de Jérusalem, pour Salomon, du premier temple donc. Et c'est tout un monde. Il y a effectivement lecture et imagination. C'est cette formule qu'il a dans cette lettre à Loubens, et qui est encore un moment de lucidité juste après une crise, dont parlait très bien Gérard Massé, et dont parlait Baudelaire avant Gérard Massé. C'est assez extraordinaire. Enfin, je crois que tout Nerval est là, dans une espèce de à trois ou des pôles, pas seulement à deux pieds, pas je suis l'autre, je suis les autres aussi.
Patia Demani.
Oui, par rapport à la question de la lucidité et de la structuration, moi je voulais revenir sur une phrase de Proust qui m'a toujours intriguée, parce que je l'avais trouvée un peu gonflée de la part de Proust par rapport à Nerval, où il termine dans le Contre Sainte-Beuve, il termine son analyse de Sylvie en disant « Peut-être y a-t-il un peu trop d'intelligence dans cette nouvelle, point de suspension. » Alors moi, j'aurais voulu qu'il commence par là et qu'il développe. Or, il s'arrête avec ces trois points de suspension. Et alors, je me suis longtemps interrogée et j'ai compris que une grande part de la fascination que Nerval exerce sur moi, c'est justement comment est-ce que dans Sylvie, cette nouvelle à l'apparence très classique... très romantique, comment est-ce que déjà Nerval lutte et contient et tente d'analyser et de maîtriser le trouble, d'où le fait que cette nouvelle elle a une puissance extraordinaire, c'est-à-dire que au sein même de l'écriture Nerval est obligé non pas seulement d'utiliser son intelligence pour structurer, hein, pour organiser et pour réfléchir sur ce qu'il éprouve, mais qu'il est obligé aussi d'exercer, de maintenir la nature du souvenir. Est-ce que je rêve? Est-ce que ça relève de la mémoire? Est-ce que ça relève de mon imagination? Et on a déjà dans Sylvie, ce qui sera déployé avec une dimension inouïe dans Aurélia, on a déjà une tentative de séparation et de compréhension entre tous ces domaines. Qu'est-ce qui relève de la mémoire, de l'imagination, de sa sensibilité? Donc voilà, alors peut-être y a-t-il un peu trop d'intelligence dans cette nouvelle. Cette phrase de Proust, je pense que, au contraire, je crois que ce qui fait toute la force de Nerval, c'est la dimension poétique de son œuvre, mais surtout cette lutte et cette intelligence, cette lucidité permanente. Juste une phrase, celle de René Char, je trouve, qui s'applique tellement à Nerval et ce qui fait, l'émotion qu'on peut ressentir à être avec Nerval, c'est la lucidité et la blessure la plus rapprochée du soleil. Et voilà, voilà pourquoi je pense qu'une des grandes émotions, quand on est avec Nerval, quand Guillaume Apollinaire dit... Nerval, c'est avant tout un frère. Je crois que c'est cette blessure, cette perte, mais par laquelle il revient toujours par les moyens de son intelligence et de sa raison. C'est une lutte, quoi. L'écriture de Nerval, c'est une lutte.
Vous savez, la première phrase du Contre Sainte-Beuve de Proust, c'est « Chaque jour, j'accorde moins de prix à l'intelligence ». Phrase incipit formidable. Et Proust, en fait, il a raison, c'est-à-dire qu'il y a de l'intelligence Nerval, mais il n'y a pas que de l'intelligence. Il y a des choses qui dépassent le cadre de l'intelligence. D'où l'un des aspects assez drôles de Nerval, j'avais écrit un article il y a longtemps là-dessus, c'est que les chimères, ça fait 12 pages, si on met un sonnet par page, et qu'il y a eu des milliers, des centaines de milliers de pages critiques pour essayer d'expliquer ces 12 pages. Où est la folie? Dans les centaines de milliers de pages critiques ou dans les 12 pages de Chimère?
Tiffany Tamayo. Non, mais je crois que comme vous l'avez tous dit à l'instant, c'est aussi que ces 12 pages contiennent une bonne part de la bibliothèque. Et je crois que pour revenir sur cette discussion que nous avons tous les uns les autres sur cette écriture par procuration, en direction de l'autre, avec l'autre, dans la rencontre de l'autre, tout cela est contenu dans une formule que vous avez eue tout à l'heure, Fatia Damani, et qui est très paradoxale, qui est Nerval n'est pas romantique, c'est un romantique allemand. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose de très vrai, je trouve, dans cette formule, qui est à la fois romantique, oui, mais en même temps avec cette mélancolie du tard venu, qui est quelque chose qui n'est pas spécialement romantique. Hein. Il y a chez les romantiques aussi un élan vers l'avenir qui n'est pas du tout présent comme tel chez Nerval, qui se traduit quand même davantage par un élan vers le passé ou l'ailleurs. Et il y a ce rapport particulier à la langue allemande, on parlera après du rapport à l'Orient, mais le rapport à la langue allemande, je trouve que dans cette préface que vous donnez aux poésies allemandes, bon, je trouve que c'est très beau ce que vous y dites, et qu'on peut développer aussi à partir de vous, et qui est ce rapport aussi à une langue morte, parce que langue maternelle de la mère morte. Hein, et qu'il y a quand même quelque chose autour de ça de très fort, et qui justifie sans doute que le premier geste littéraire soit cette traduction du Faust, puisque la mère s'appelait Marguerite, etc. Donc sans vouloir construire moi-même une légende, enfin d'autres l'ont fait, psychanalytique autour de ça, il y a quand même là-dedans quelque chose d'assez extraordinaire et qui conduit en fait directement de là au poème du veuf et de l'inconsolé.
Françoise Alexandre ?
Non. Je voulais revenir sur la question de la procuration.
Allez-y.
Qui n'est pas un terme péjoratif, hein, à mon esprit.
Oui, mais...
Du tout.
Vous avez une autre expression qui est à mot couvert. Voilà, oui, hein, oui, écrire à mot couvert. Pardon.
Et je me demande si cette notion de procuration est bien propre à Nerval, d'une part... Car au fond, tout écrivain, tout poète écrit de ce qui a déjà été écrit et sur ce qui a été écrit autrement. Donc je me demande aussi si cette expression ne renvoie pas justement tout à fait à la notion d'autre. Écrivant, je suis autre.
Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une unité chez Nerval qui tient au style. C'est-à-dire que on le reconnaît toujours, il y a une musique très particulière et très personnelle, et qui fait sa profonde unité. C'est-à-dire qu'à la limite, il peut recopier, même pas traduire, il peut aller jusqu'à recopier. Il suffit qu'il change la ponctuation et le rythme devient nerbalien. Ça tient à très très peu de choses. Il lui faut de légers déplacements pour que le texte devienne le sien. Et ça, c'est troublant, admirable, et je trouve que si on n'entend pas ça en soi, si on n'entend pas ce rythme, cette musique nervalienne, on passe à côté de tout. Voilà, toutes nos discussions seraient vaines s'il n'y avait pas, au bout du compte, ce chant très singulier, très personnel, et tellement magnifique, magnifique parce qu'il acquiert une sorte d'évidence. Il n'y a presque plus de différence de ce point de vue entre le vers et la prose. Mmh. Et d'ailleurs, chez Nerval, on peut passer de l'un à l'autre presque sans s'en apercevoir.
Un mot peut-être, Jacques Demare, pour faire le lien entre votre article dans Europe et le livre publié par Françoise Alexandre, pour dire que donc vous faites une lecture de Sylvie à partir de sa région du Valois, et vous rappelez donc que Nerval est un pseudonyme. Est-ce que c'est lui, et c'est donc le nom d'un lieu-dit, c'est ça
Oui, qui était le clos de Nerval ou de Noirval, qu'il a rapporté ensuite un peu... fictivement un empereur très bref qui s'appelait Nerva et romain.
C'est toujours chic, c'est bien. C'est...
Oui, oui, oui. Mais bon, je...
Est-ce que c'est son père qui lui avait demandé de changer de nom? C'est lui qui a décidé de ne pas porter le nom de son père.
Il faut dire au passage que son véritable nom est très beau déjà, Gérard Labruni.
Mais il signait simplement Gérard, il signait d'un prénom qui est... On n'a pas parlé de la modestie ou de la timidité de Nerval, mais
C'est aussi pour faire comme Rousseau, Jean-Jacques.
Oui, c'était aussi pour faire comme Rousseau, vous avez raison. Mais non, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que le Valois est une complète invention. Que le Valois de Nerval est sans doute ce qu'il y a de plus fictif. C'est le dernier des écrivains. Il n'est pas du tout régionaliste.
D'accord.
Et pas du tout... c'est pas un écrivain de l'Île-de-France. C'est vrai qu'il se promène...
Je résiste beaucoup.
Un petit peu, mais... Enfin, je crois, bon, quand il décrit le parc d'Hermenonville, il le rattache, non sans raison d'ailleurs, à l'Italie. Il y voit des images du jardin de Tivoli près de Rome. Ce n'est pas faux parce que Girardin, qui avait conçu ce jardin, avait repris comme on faisait à la fin du XVIIIe siècle des monuments italiens. Il y a toute une Italie, il voit constamment l'Italie ou des souvenirs de l'Italie qui est le début de l'Orient pour Nerval. C'est le premier pas vers l'Orient, ne serait-ce que parce que dans Les Filles du Feu, les deux nouvelles qui se passent autour de Naples font des allusions à la religion antique de l'Égypte.
Un Orient historique et spirituel plus que géographique.
Oui. Voilà. Mm-hmm. Mais ce Valois, alors bien sûr qu'il le connaît, bien sûr qu'il y a des brumes du Valois, bien sûr que Corot va peindre avec une idée, en ayant lu Nerval, ses souvenirs de Mortefontaine, mais et c'est vrai qu'il a passé son enfance dans cette région, à Mortefontaine, mais en même temps il y projette. Là encore, toute une littérature, et c'est ça qui fait la richesse de la région. C'est pour ça qu'il y a Sylvie, cette petite paysanne, mais à côté d'une actrice et à côté d'un personnage dantesque en partie, Adrienne, Dante et tout le Valois est construit et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon article. Tous ces articles, toutes ces promenades dans l'Île-de-France tourne autour de cercles, de spirales. Gérard Massé parle aussi de ça dans ses textes.
Mais le cercle, la dialectique du cercle et de la ligne est quelque chose de tout à fait important dans l'écriture nervalienne. Pour écrire, il faut sortir du cercle. Mais pour pouvoir écrire, il faut avoir été dans le cercle.
Voilà. Donc j'insistais sur le nom qui n'est pas celui du père pour introduire vos lettres. Vous avez donc sélectionné les lettres du père.
Ce sont les lettres de Nerval. Oui, c'est les lettres.
et celle-là au docteur Blanche. On peut commencer par la question du père, si je puis dire, puisqu'on sait qu'il lui a écrit de nombreuses lettres alors qu'il était enfermé dans cette clinique du docteur Blanche et que le père n'a jamais répondu. Ce qui donne un aspect extrêmement pathétique à ces lettres.
Oui, le statut de ces lettres est tout à fait particulier, puisque a priori une correspondance est fondée sur une situation d'échange entre un destinataire et un destinateur qui inverse leur rôle au fil de la correspondance. Or, les lettres de Gérard de Nerval à son père constitue un monologue qui ne devrait pas être et qui de ce fait prend une dimension tout à fait pathétique, vous avez employé ce mot, on pourrait aller jusqu'à dire tragique. La lecture des dernières lettres permet de se demander si l'absence de réponse du père n'est pas directement en rapport avec la mort.
Vous relevez une phrase magnifique qui est Si je mourais avant toi, écrit-il à son père, j'aurais au dernier moment la pensée que peut-être tu ne m'as jamais bien connu. Oui. Et vous dites, ce sont finalement des lettres d'amour fou, d'une quête, d'une reconnaissance par un père qui n'a jamais
une
répondu.
Quête du père. Le père a refusé de s'occuper de son fils. Il y a divers témoignages qui le montrent. Il a refusé de s'occuper de sa malade, enfin de s'occuper de lui lorsque il a été interné. Il refuse de s'intéresser à lui au moment de sa mort. Il n'ira pas voir le corps, semble-t-il.
Il parle de lui en des termes de trigger. Il dit le jeune homme.
Il l'appelle le jeune homme. Le jeune homme, oui. Le jeune homme est mort. Et c'est une abolition complète de l'être même de Nerval.
Et de la relation.
Et de la relation.
Qui a l'air de ne pas exister dans cette forme.
Alors, le père aurait souhaité avoir un fils médecin, un autre lui-même, mais comme on l'a vu, c'est un autre que cherche à devenir Nerval. Dans les dernières lettres échangées, donc, qu'il écrit à son père depuis l'Allemagne, son dernier voyage en Allemagne, il essaye de mettre en rapport la gloire acquise par le père, ou prétendument acquise par le père, car parlerait-on du père de Nerval si...
Il n'était pas le père de Nerval.
Bon, son engagement militaire et la gloire qu'il pense avoir acquise, car il la présente comme telle, par la plume
Et ce qui apparaît aussi que je trouvais très très beau dans ces lettres, c'est la question de la mère qui donc est morte. Mais la question n'est pas de sa disparition, au fond, qui est une chose acquise. C'est l'absence totale de traces de cette mère, donc de souvenirs et même d'un portrait. C'est-à-dire vous faites une citation très très belle dans ces notes. Il ne sait pas la ressent. Si il sait qu'elle ressemble
à un tableau de Fragonard.
C'est ça. Perdu,
c'est ce qu'on lui a dit ou non, c'est ce qu'il imagine. Oui, parce qu'en fait, la mère meurt en Silésie, donc à ce moment-là, Gérard a 2 ans et il n'est pas avec ses parents. Et puis, peu de temps après, le père perd la malle dans laquelle se trouvent tous les documents, tous les souvenirs, tous les
papiers à la mère. Le père, il a beaucoup perdu, donc, effectivement.
Alors, ce qui est vraiment très, très bouleversant dans ces lettres, c'est en effet que ça n'est pas un échange. C'est des lettres sans réponse, donc c'est une seule lettre, en quelque sorte, parce que même si elles sont écrites à des dates différentes, étant donné qu'il n'y a aucune réponse dans les interstices, c'est vraiment comme une sorte de monologue, et qui témoigne d'une demande absolument infinie, et qui s'exprime syntaxiquement, enfin verbalement, par des antiphrases, par la non-demande, toujours par la négation.
Oui.
Par exemple, la lettre au moment où Nerval déménage à Passy dans la clinique du docteur Blanche, je crains qu'on ne t'ait pas parlé de mon déménagement qui doit avoir lieu demain 8 octobre avant midi. Ce n'est pas à ton âge que l'on peut se préoccuper de ces choses-là, fût-ce pour soi-même. Ne donne pas d'argent, j'ai de quoi faire face à cette dépense. Ne donne pas l'ordre de faire mon déménagement. C'est quand même très frappant.
Je sais que tu n'aimes pas écrire.
Constamment, les choses s'expriment par la négative. Tout apparaît dans ces lettres comme si l'échange était réel, puisqu'il est question de petits faits de chaque jour.
Ou moins, tout de même.
Oui, mais enfin, quand même assez souvent. Là, en tout cas, dans la lettre que je viens de lire, c'est quand même très frappant. Mais c'est toujours exprimé sous la forme négative.
Sauf qu'il lui réclame une réponse. Et le choix de ces dernières lettres est ponctué par le rappel de son itinéraire en tant qu'il s'agit d'une boîte postale possible au cours du voyage en Allemagne en particulier, en juin-juillet 1854.
Oui, c'est frappant qu'on lit ça et aussi l'inverse. On lit ça et aussi l'inverse. C'est ça qui est bouleversant. C'est qu'on lit aussi une forme d'interdiction. C'est-à-dire qu'il sait qu'il ne recevra pas de réponse. Il y a une sorte d'énergie à la réclamer tout en ne la réclamant pas. Quelque chose est accompli, on sent aussi dans ces lettres. Elles ne sont pas seulement pathétiques et bouleversantes, elles sont aussi glaçantes de ce point de vue-là. Parce que,
par rapport aux lettres, alors ce que dit directement le fils au père, la comparaison avec ce qu'il dit du père dans l'œuvre, c'est-à-dire là on est, c'est-à-dire le rapport entre biographie et œuvre, entre ce que dit donc clairement Nerval à son père, et puis je crois que c'est dans Promenade des souvenirs où il raconte le retour de son père de la guerre, il est en train de jouer devant la maison de l'oncle, et le père le serre tellement fort qui lui dit « Père, tu me fais mal ». Et en fait, il n'y a pas simplement l'expression d'une relation individuelle entre le père et le fils, il y a aussi quand même, en résonance, une génération douloureuse, le conflit des générations, le malentendu entre les fils, les romantiques, qui doivent, contenir et recevoir un héritage, celui des guerres, celui de leur père, de la vocation que leur père leur réclame. Et donc, il y a quand même un témoignage personnel et individuel très, très fort. Père, tu me fais mal. Mais à la fois qui exprime le destin de toute la génération romantique, génération hautement douloureuse.
Oui, l'effondrement du divin va aussi avec une perturbation de la relation avec le père. Et je pensais, en vous entendant, à Leopardi, qui a écrit aussi à son père, en faisant un projet de fugue, c'est une lettre que j'ai traduite un jour, et cette lettre, on n'est pas parvenu au destinataire, mais il y a une relation très compliquée entre Leopardi et son père, et j'y pense aussi parce que c'est chronologiquement à peu près le même moment.
Et donc, vous avez écrit une pièce de théâtre qui évoque les mêmes années que ces lettres, c'est-à-dire les toutes dernières années dans la clinique de Passy, chez le docteur Blanche. Vous avez déjà dit à plusieurs reprises votre fascination pour Nerval. Pourquoi écrire aujourd'hui une pièce de théâtre à ce sujet?
En fait, il n'y a pas uniquement la pièce de théâtre, il y a aussi un projet au cinéma. Parce que je pense que j'ai eu le privilège de rencontrer Nerval, mais que Nerval reste comme certains auteurs, quoi, assez difficile, ou c'est un chemin un peu difficile, hein. Soit on a la chance de le rencontrer, soit on ne l'a pas, et je pense que, ben en fait, quand on posait la question à Visconti, mais pourquoi vous voulez adapter à la recherche du temps perdu? Il disait en fait que c'était juste pour que le spectateur revienne à l'œuvre. Donc moi, en fait, j'écris une pièce de théâtre. D'abord, je pensais que le huis clos pouvait condenser un peu le drame intérieur et puis donner peut-être une idée sensible du rapport entre deux hommes qui se sont aimés, respectés, même si c'est l'histoire d'un malentendu entre l'artiste et son soignant. Et aussi donner lieu à essayer de faire une synthèse entre Sylvie, Aurélia, le voyage en Orient et
donc
puis des éléments biographiques.
Vous reprenez le sous-titre d'Aurélia,
oui, le rêve
et la vie, en disant que, enfin, dans ce dialogue comme ça entre Nerval et le docteur Blanche, votre Nerval dit il n'y a pas à choisir.
Entre... Le rêve et, oui, c'est ça. Et la vie. Je pense que c'est toute l'ambition et toute la douleur de Nerval, c'est de ne pas choisir. Et comme vous le dites dans votre livre, Gérard, oui, à savoir que ben, le statut du rêve, quoi, il pose quand même le statut. Quel est le statut du rêve que l'on doit, ben, que l'on doit accorder au sein même de la réalité et à quel prix? Donc pour moi, cette pièce de théâtre qui est aussi le début peut-être d'un projet cinéma ou pour la télé, c'est pouvoir propager un petit peu de Nerval pour susciter une curiosité, ou en tout cas la fascination que moi j'ai pu éprouver, afin que, bah, que beaucoup lisent Nerval, parce que Nerval fait partie de ces rares écrivains, ces rares artistes à avoir sacrifié. C'est le seul romantique à s'être suicidé, enfin à ma connaissance. Donc il a payé
français,
de sa vie.
Français,
bien évidemment. Je parle dans le cas. Les romantiques allemands, c'est autre, bien évidemment. C'est autre chose. Justement, c'est pour ça que je dis que c'est un romantique allemand, par le suicide aussi.
Est-ce que vous ne dites pas, hein, qui est présent dans votre pièce, que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est la question de l'Orient, justement, hein?
Oui, tout à fait. Ben, en fait, ça, c'est quelque chose, j'en parle pas trop, c'est quelque chose de plus personnel, dû à mes origines. Savoir que j'ai découvert d'abord Sylvie, après Aurélia, après je m'intéresse à la vie, je dis mais qui est cet homme? Et là, j'ai le voyage en Orient, et bon, étant née en France, j'ai aussi un rapport fantasmatique à ma culture et à ma religion, mm-hmm. même si je suis pratiquante et je suis fidèle à mes traditions.
Qui pourrait être proche de celui qu'entretenait Nerval avec cet Orient aussi?
Eh bien, ce qui a été incroyable, c'est que j'ai ressenti, enfin, quand Nerval raconte l'Orient et qu'il rentre à Paris et qu'il parle du manque de l'appel du muezzin, mais qui n'est pas seulement un appel à Dieu, mais qui effectivement fait référence au Dieu est mort de l'Occident, le vide qui n'a pas eu lieu en Orient. C'est nous, Dieu n'est pas mort. C'est toute la grande différence. Et j'ai dû passer par la sensibilité nervalienne avec une poésie, une lucidité, enfin, avec toute la dimension poétique de Nerval, il me ramenait à moi-même et à cette dimension beaucoup plus fantasmée que réelle que j'ai à ma culture d'origine et à une religion que je vis de façon décalée ou déplacée, en tout cas, puisque je la vis ici. Et Nerval, il m'a donné les moyens poétiques et émotionnels, quoi, de revenir à moi-même. Donc c'est pour ça que c'est une rencontre inoubliable.
Pardon, juste un mot pour dire que dans l'Orient de Nerval, il n'y a pas seulement le dieu des musulmans, il y a aussi les dieux de l'antiquité égyptienne. Voilà, juste pour
bien sûr.
Tiphaine.
Oui, ce qui est très beau dans votre pièce, hein, c'est cette double rencontre, parce que vous dites que vous avez rencontré Nerval, mais on peut dire qu'il vous a rencontré aussi, hein, c'est-à-dire que dans ce « je suis l'autre », il y a la place pour vous. Hein, et c'est ce que vous sentez, ce que vous faites vivre dans votre pièce, à partir, je dirais, du milieu, à partir du moment où il y a cet opéra donc projeté avec Liszt et ce dialogue entre la reine de Saba et Salomon. Et à partir de là, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment extrêmement fort dans ce que vous dites de cette rencontre-là, avec la présence, évidemment, des cris du médecin, mais aussi de du chant arabe, de la langue arabe, de la huppe aussi, hein, cet oiseau. Bon, et ça est très fort. J'ai trouvé que à partir de là, si vous faites un film, je dirais que c'est vraiment là-dessus que vous devez travailler. Pour moi, le rapport entre le médecin et Nerval est moins réussi, parce que je trouve... justement, là, la rencontre n'est pas encore totalement accomplie. Mais c'est normal, c'est aussi les scènes d'exposition. Et puis, c'est aussi, ça évoque tellement les rapports qu'on a tant glosés, tant racontés entre Dr Ferdière et Artaud, que voilà, j'ai mis plus de temps à rentrer. Mais dès qu'on arrive dans cette vraie rencontre, alors là, au sens fort que vous évoquez aussi très bien oralement devant nous, là...
C'est le côté vraiment... un peu didactique, peut-être, entre Nerval et Blanche. J'ai été, comme il y a aussi
c'est
une
ambition un peu trop particulier. Oui, oui.
Donc, vous croyez qu'un acteur qui joue Nerval.
Merci beaucoup.
Je sais pas.
Merci. On a parlé aujourd'hui... Ça marche ? Oui, oui, ça marche. On a parlé aujourd'hui de Je suis l'autre, de Gérard Massé, qui est publié aux éditions Gallimard dans la collection Le Promeneur. On n'a pas eu le temps d'évoquer Les filles de la mémoire, du même Gérard Massé, qui paraît en ce moment donc dans la collection Blanche chez Gallimard aussi, du numéro de la revue Europe de mars 2007, consacré à Gérard de Nerval sous la direction de Anne Struve-Debeau. Des dernières lettres de Gérard de Nerval à son père et au docteur Blanche. Introduction de Françoise Alexandre, note de Michel Julien aux éditions L'Insulaire. Et de Nerval ou Le rêve et la vie de Fatia Damani, édition de L'Amandier, pièce lue au Théâtre du Rond-Point par Gérard Depardieu et Richard Bohringer en 2004, parmi d'autres, hein, et diffusée récemment sur France Culture.
Cette émission a été diffusée le 12 juin 2007 sur France Culture.